interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être.
Environ 16% de la population mondiale serait atteinte de pertes auditives, représentant près d'un milliard de personnes. La perte d'audition est généralement liée au vieillissement, mais il existe de nombreuses causes et facteurs pouvant déclencher, voire aggraver, une baisse d'audition. Vous avez un doute sur votre audition ? Pour avérer l'existence de cette déficience, il est impératif de consulter un médecin ORL qui sera en mesure d'effectuer un bilan auditif. Dans ce magazine de santé, nous parlerons de perte d'audition avec un professeur titulaire d'otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Docteur Rita Pascal Adjoa, bonjour. Avec vous, nous parlons des troubles de l'audition. Pour l'auditeur, c'est quoi ?
Le trouble de l'audition, principalement, c'est la diminution de l'audition. C'est ce qu'on appelle l'hypoacousie. Hypo pour diminution, acousie pour audition. L'organe principal mis en place pour gérer l'audition, c'est l'oreille. Donc le son arrive au niveau du pavillon, il va entrer dans le conduit auditif externe, frapper la membrane tympanique, entraîner le mouvement des osselets et l'impression au niveau des cellules de l'audition qui vont déclencher l'influx auditif. Et le message auditif va être transmis par le nerf auditif au niveau du cerveau dans l'aire auditive. Là, vous allez entendre et ensuite des mécanismes vont vous permettre de comprendre et voilà, le jet est fait. Et lorsque sur tout ce processus, il y a un problème, eh bien, votre audition va diminuer parce que c'est la transmission du son de l'extérieur vers les cellules de l'audition qui est perturbée. Donc, vous allez avoir une surdité de la transmission, soit c'est au niveau des cellules de l'audition et des nerfs auditifs et plus haut qu'il y a une perturbation, vous allez avoir dans ce cas une surdité de la réception du son ou de la perception du son, qu'on appelle donc une surdité de perception. Maintenant, cette surdité va être qualifiée en fonction de l'intensité du son qu'on va envoyer pour vérifier. Si on envoie un son qui fait entre 0 et 20, 25 décibels et que vous entendez, eh bien, votre audition est considérée comme normale. Si on est obligé de vous envoyer un son entre 20 et 40 décibels, donc vous voyez qu'on augmente l'intensité, eh bien, c'est que vous avez une surdité légère. Entre 40 et 70 décibels, c'est là, vous avez une surdité moyenne. Entre 70 et 90 décibels, vous avez une surdité sévère. Et en dessous de 90 à 120 décibels, vous avez une surdité profonde. En général, on n'interroge pratiquement plus en dessous de 120 décibels. Donc, à partir de là, on peut qualifier maintenant l'audition aussi bien dans le sens de transmission-perception que dans le sens gravité de la surdité, légère, moyenne, sévère et profonde.
Est-ce que ces surdités sont accompagnées d'autres signes ? Si oui, lesquels ?
Le bourdonnement d'oreilles, qu'on appelle les acouphènes. Ça peut être accompagné aussi des écoulements d'oreilles, qu'on appelle les otorhées. L'oreille qui va couler, ça peut être muqueux, liquide, clair, ça peut être purulent. Et quelquefois même, ça, il peut y avoir un peu de sang dedans. Ça peut être accompagné de douleurs de l'oreille, qu'on appelle des otalgies. Ça peut être accompagné de vertiges. Et donc, ces signes-là peuvent accompagner le signe principal, qui est la diminution de l'audition. Une fois que vous vous êtes présenté chez le médecin, que vous avez parlé de ces signes, de diminution de l'audition, le médecin, il va vous examiner. Il va regarder avec une lampe, qui peut être de différentes formes. Il va regarder rapidement, bien sûr, le pavillon de l'oreille. Il regarde le conduit auditif externe. Il y a peut-être des saletés, des bouchons épidermiques ou bien des bouchons de cérumen et qui va donc demander un lavage d'oreille. À l'issue du lavage de l'oreille, il va regarder ce conduit qui a été libéré et la membrane tympanique. Ensuite, il va demander un examen qui va permettre de voir qu'est-ce qui se passe derrière la membrane tympanique. Il va faire un audiogramme pour voir quelle est la qualification de cette audition. Il fait donc son audiogramme qui va lui dire si c'est normal, parce que peut-être que le patient a l'impression qu'il a une diminution de l'audition. Si c'est anormal. De quel type de surdité il s'agit? Si c'est une surdité de transmission, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème derrière la membrane tympanique, mais que les cellules de l'audition sont tout à fait normales. Soit c'est une surdité de perception, donc c'est les cellules de l'audition ou le nerf auditif qui ont le problème. Et à ce moment-là, si c'est la surdité de transmission, il va demander un autre examen qu'on appelle le tympanogramme, qui va permettre de voir qu'est-ce qui se passe derrière la membrane tympanique. Puisque la membrane tympanique, elle est normale, l'oreille interne est normale, les cellules de l'audition sont normales. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau de la caisse du tympan et des osselets? Si il a une surdité de perception, à ce moment-là, il va demander un potentiel évoqué qui va permettre de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules de l'audition, au niveau du nerf auditif. Donc avec ces explorations, ils se font bien sûr en cabinet ON, il peut dire exactement qu'est-ce qui se passe, où ça se passe.
Professeur, on souhaiterait revenir sur les principaux troubles de l'audition avec un peu plus de détails.
Globalement, en fonction des causes, vous avez soit les infections, soit les traumatismes, soit les tumeurs, et puis soit les problèmes de malformation, etc. Donc, dans les infections, l'infection, c'est l'otite. Soit une otite externe, soit une otite moyenne, soit une otite interne qu'on appelle la labyrinthite en fonction de la localisation. Vous pouvez avoir donc les traumatismes avec les plaies du pavillon de l'oreille, bon, que ce soit des accidents de la voie publique ou que ce soit des traumatismes de sport ou des traumatismes même, j'allais dire, de bagarre ou de risque. Vous avez les plaies, les fractures de l'os dans laquelle l'oreille se trouve, qu'on appelle le rocher, qui peut se fracturer. Au niveau des tumeurs, vous pouvez avoir aussi bien des tumeurs bénignes que des tumeurs malignes, des cancers. À la naissance, on peut observer des malformations, surtout au niveau du pavillon de l'oreille, qui peut ne pas être dans la conformation habituelle ou qui peut être réduit à quelques bouchons. Et on peut avoir le conduit qui n'est pas ouvert. On peut avoir aussi des absences d'un certain nombre d'éléments constitutifs de l'oreille ou même peut-être l'absence complète de l'oreille.
Parlons des troubles de l'audition chez la personne âgée et chez l'enfant, sujet sensible aujourd'hui de déficience auditive. Quelles sont les infections que vous rencontrez le plus lors de vos consultations?
Ce sont les infections, les otites, otites moyennes, otites externes. L'otite externe, qui est surtout liée à des problèmes allergiques. Maintenant, il y a aussi les traumatismes avec les accidents de la voie publique, le traumatisme de l'oreille rentrant dans une grande famille de traumatismes de la tête et du cou, même de traumatismes généraux. C'est pour ça que quand nous on examine l'oreille, il ne faut pas rester que là, il faut examiner tout le corps pour voir s'il n'y a pas d'autres traumatismes ailleurs, surtout dans les cas des polytraumatisés. Là, il faut souvent faire un audiogramme sur les polytraumatisés pour voir s'il n'y a pas eu effectivement un traumatisme de l'oreille, mais qui n'est pas visible. Et dans le cadre médico-légal, ça peut être effectivement intéressant de le savoir.
Je suis n'importe qui. Alors, je veux savoir comment reconnaître le trouble de l'audition.
Mais tout simplement, lorsque on vous parle, lorsque vous écoutez la radio, la télévision, lorsque autour de vous, on est en train de vous parler, vous avez une sensation de diminution de l'audition. Vous avez besoin que l'interlocuteur parle plus fort, élève la voix, qu'on augmente la radio, la télévision, pour que vous soyez interpellé. Quand on fait un peu de bruit autour de vous, vous n'êtes pas concerné ou intéressé par ce qui se passe parce que bah, vous n'entendez pas. Et c'est souvent comme ça. C'est les autres d'ailleurs qui vont dire « Mais pourquoi tu me demandes de répéter? Pourquoi tu me demandes de crier? Pourquoi tu me demandes de parler plus fort? Mais tu ne vois pas que ta télévision ou la radio, tu ne vois pas que c'est fort là. La musique que tu écoutes, elle est forte. Tu ne le vois pas. » Et c'est comme ça que progressivement, les gens se rendent compte que ah, mais donc, j'ai une diminution de l'audition. Et ça, c'est le problème, soit de la presbyacousie, parce que la personne est âgée, à partir de 40 ans, ça commence à diminuer de manière naturelle, soit c'est le bruit qui va entraîner une destruction des cellules de l'audition. Et quand je dis le bruit, c'est pas forcément le bruit qu'on va faire en boîte de nuit, qu'on va faire dans une église, qu'on va faire dans un maquis, etc. C'est aussi les écouteurs que les enfants vont mettre à 1 cm ou 1 demi-centimètre de leur tympan en mettant un son extrêmement élevé qui va entraîner une destruction précoce des cellules de l'audition. Et ce sont des enfants qui commencent à quoi, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, mais dans 10, 20 ans, ils peuvent avoir carrément une perte complète de l'audition liée à cela. C'est un traumatisme sonore qu'on se crée.
Donc il n'est pas conseillé d'utiliser les écouteurs.
Non, non, non. Les écouteurs, même quel que soit l'âge, les écouteurs, s'ils sont utilisés, doivent être utilisés de manière brève. Mais quand vous les mettez en permanence pratiquement, il y en a qui marchent, ils ont l'écouteur. Hein. Il y en a qui dorment, ils ont l'écouteur. Ou bien ils dorment en musique, ou en regardant un film. Mais vous allez avoir forcément des troubles de l'audition. Et ça va être des troubles de perception qui vont s'installer de manière insidieuse, de manière progressive, jusqu'à ce que ça devienne perceptible. Et on a aujourd'hui effectivement des sujets de plus en plus jeunes qui sont sujets à ces problèmes-là. Et c'est pour cela que nous, dans nos campagnes, nous allons vers les écoles et quand nous faisons les sensibilisations, nous parlons absolument de ça. Et nous trouvons des fois des jeunes, effectivement, qui ont des troubles de l'audition, qui ne vont pas forcément en parler à leurs parents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir une diminution de l'audition? Ils vont augmenter l'intensité sonore de l'appareil qui va leur débiter des sons terribles et ça va entraîner le cercle vicieux de la destruction de plus en plus. Nous avons 20 000 cellules d'audition à peu près. Ces cellules, plus elles vont être détruites et plus l'audition va baisser.
Comment soigner une baisse de l'audition? Est-ce que cela est facile? Est-ce que cela se fait assez rapidement?
Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, eh bien, on va traiter en fonction du diagnostic. Si c'est une infection, bien sûr, nous allons commencer par médicalement, par le traitement antibiotique, principalement, quelquefois associé à des anti-inflammatoires ou à des corticoïdes, ça dépend. Et nous allons, de manière chirurgicale, pouvoir traiter les dégâts que l'infection a causés lorsque ça se situe au niveau de l'oreille externe, de l'oreille moyenne. Par exemple, si vous avez un trou dans le tympan, on peut fermer ce trou. Si, bien sûr, en dehors de l'infection, hein, quand l'infection est réglée. Voilà. Si vous avez un trouble au niveau des osselets qui a été bouffé, qui est donc la continuité de la chaîne entre le tympan et les osselets ne se fait plus, eh bien, on peut refaire ce qu'on appelle une ossiculoplastie qui va permettre de refaire la chaîne de transmission du son. Ça, c'est lorsque c'est au niveau de l'oreille moyenne. Au niveau de l'oreille interne, on ne peut pas faire de chirurgie pour aller traiter des cellules de l'audition. Les cellules de l'audition, une fois qu'elles sont mortes, elles sont mortes. Elles ne peuvent pas se multiplier. C'est pour cela qu'il faut gérer ça à l'économie. Mais si la surdité est légère et moyenne, on peut régler ça avec un appareil auditif qu'on appelle une prothèse auditive qui va amplifier le son autour que vous recevez, qui va recapter le son autour de vous, augmenter le son à un niveau où il est réglé de telle sorte que vous puissiez entendre. Si vous avez une baisse de l'audition de 40 décibels, eh bien, on va le régler à 45 pour que vous puissiez entendre. Mais lorsque la surdité est sévère ou profonde et que là, la surdité se trouve à 70, 80, 90 décibels, l'appareil auditif, la prothèse auditive ne peut plus marcher parce qu'on est obligé de vous donner un son de 90 ou de 100 décibels. À ce moment-là, non, ça ne peut pas fonctionner parce que vous ne pouvez pas supporter ce son. Et ça veut dire que le pourcentage des cellules d'audition encore vivantes est trop faible ou toutes les cellules d'audition sont où elles ne sont pas là. À ce moment-là, c'est l'implant cochléaire qu'il faut venir placer. Le seul problème, c'est que la prothèse auditive va vous faire dans 600, 700, 1000, 800 000. Et l'implant, lui, il va vous faire quelques millions, 6, 7, 8, 10 millions. Donc voilà un peu la complexité de l'affaire. Mais en fait, j'allais dire, c'est pour votre confort, c'est pour votre vie. Et donc, voilà comment on peut régler donc la diminution de l'audition.
À vous entendre, professeur, cela veut dire qu'on ne peut récupérer l'audition de façon naturelle.
De manière naturelle, spontanée, comme ça, je ne pense pas. Il peut y avoir peut-être des phénomènes qui se passent qui font que, bon, vous avez une diminution d'audition transitoire. Par exemple, lorsque vous avez un problème au niveau de la caisse du tympan, lorsqu'il y a du liquide dans la caisse du tympan, effectivement, et que ce liquide s'évacue vers le nez par la trompe d'Eustache, ou bien vous avez par exemple un blocage des tympans et des osselets, par le fait que vous changez d'altitude en montant ou en descendant, par exemple en avion, quand vous montez, quand le décollage ou l'atterrissage, vous avez à un certain moment un blocage de la membrane tympanique et de la chaîne ossiculaire. Pourquoi? Parce que vous avez la pression dans la caisse qui est différente de la pression atmosphérique. Et donc, comme il y a une différence de pression, eh bien, vous allez avaler la salive. Quand vous avalez la salive, vous-même vous entendez clac l'ouverture de la trompe d'Eustache et il y a un équilibre de pression qui va se faire et votre chaîne tympanique va recommencer à fonctionner jusqu'à ce qu'il va éventuellement, vous, ça se stabilise. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les avions, dans le temps, on distribuait des bonbons. Spontanément comme ça, je crois que c'est les deux ou trois figures que je vois.
Depuis ces trois dernières années en Côte d'Ivoire, à combien peut-on évaluer le nombre de patients qui ont perdu l'audition?
D'abord, à la naissance, on observe environ 3 à 5 naissances sur 1000 qui peuvent naître sourds, sans cellule de l'audition. Dans quelques études que nous avons donc menées, ça va dépendre des milieux, mais globalement, nous avons à peu près 10% effectivement de personnes qui peuvent avoir des problèmes donc d'audition. Maintenant, effectivement, en fonction du type, en fonction du lieu, en fonction de l'âge, et tout ça, les choses peuvent changer. Mais je vous dis, dans les dépistages que nous faisons tout azimut, c'est-à-dire nous arrivons dans une population et nous faisons le dépistage, nous avons 30% à peu près de personnes qui ont un problème ORL. Dedans, évidemment, il va y avoir tous les types de pathologies ORL qu'on peut.
En cas de cas grave, comme vous l'avez cité, est-ce qu'il est demandé de procéder à une opération chirurgicale?
L'opération chirurgicale va d'abord demander un diagnostic, une indication en fonction de ce qu'il faut réparer ou de ce qu'il faut gérer. Une intervention chirurgicale est possible. Maintenant, dans chaque organe, il y a des pathologies qui vont nécessiter une intervention chirurgicale et puis il y en a qui vont être traitées simplement de manière médicale, en fonction aussi du type de pathologie. Quelquefois, surtout dans les problèmes de cancer, il y aura peut-être de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. L'ORL, c'est peut-être médico-chirurgical, otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale. Donc c'est vrai que beaucoup des pathologies que nous rencontrons ont nécessité d'une intervention chirurgicale.
C'est ici que prend fin notre entretien, professeur. Qu'est-ce que les auditeurs doivent finalement retenir?
Concernant l'audition, comme l'oreille est tout autre organe de l'être humain, c'est d'en prendre soin, d'être à l'écoute afin de pouvoir donc déceler le moindre signe, que ce soit la diminution d'audition, que ce soit une douleur, que ce soit un écoulement, que ce soit un vertige, que ce soit un bourdonnement. Vraiment de consulter les professionnels de la santé, les médecins, les infirmiers, qui peuvent même régler déjà au niveau de la médecine générale un certain nombre de problèmes et les orienter vers les otorhinolaryngologistes lorsque le problème est un peu plus important, de manière qu'ils soient pris en charge dans des conditions adéquates.
Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Parmi les cinq sens, l'ouïe se révèle un sens précieux, l'un des plus importants pour la communication et la perception du monde environnant. Souvent négligé, pas suffisamment protégé du bruit, l'ouïe est fragilisée et vieillit parfois prématurément. Non traitée, une perte d'audition peut engendrer plusieurs problèmes de santé. Ces troubles de l'audition peuvent entraîner un isolement social progressif, car les relations avec les autres deviennent compliquées, entraînant ensuite une impression de solitude, de vulnérabilité, voire un état dépressif. Aujourd'hui, de nombreuses innovations techniques viennent pallier les problèmes d'audition au quotidien. L'audition n'est pas un luxe, c'est le bien vieillir qui est en jeu. C'est ce que nous disait dans ce magazine de santé pour tous Dr Rita Pascal Adjoa, professeur titulaire d'otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.